Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Quand on parle de santé mentale et que l'on cherche à comprendre certains troubles, limiter son approche à un seul facteur, c'est dans la plupart des cas faire fausse route. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons avec nos invités aborder la question de la dépression au féminin. En explorer les manifestations, les causes, décrire les spécificités, témoigner du ressenti. Les femmes, c'est un fait, sont deux fois plus touchées que les hommes par la dépression. Partant de ce constat, de cette inégalité, on a forcément envie de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui peut l'expliquer ? Les facteurs biologiques, les cycles menstruels, la grossesse, l'activité hormonale fournissent des pistes, oui, mais pas seulement. La santé psychique est intimement liée au vécu, au contexte, à l'environnement socioculturel. Et cette inégalité sanitaire, cette vulnérabilité féminine face au risque de dépression, est également à relier aux inégalités de genre, discrimination, violence, non-reconnaissance. Une approche multifactorielle pour mieux cerner la dépression au féminin, pour y apporter un regard différent et des options de soins thérapeutiques en phase avec des parcours singuliers des patientes. Alors si vous souhaitez témoigner, posez vos questions à nos invités, notre numéro WhatsApp, le 33 7 71 18 46 41. Des femmes plus vulnérables à la dépression, est-ce que la nature explique tout ? Eh bien non, comme on peut le comprendre en lisant votre livre. Docteur Lucie Joly, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes praticienne hospitalière en psychiatrie périnatale au service de psychiatrie de l'hôpital Saint-Antoine et de l'hôpital Trousseau à PHP à Paris. Et vous avez co-signé avec votre confrère le docteur Hugo Botman le livre « La dépression au féminin, démystifier, comprendre, guérir » publié aux éditions du Rocher. Un témoignage, le vôtre, Constance, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes humoriste, vous interprétez votre spectacle Inconstance jusqu'au début janvier à la Comédie de Paris, avant une tournée de plus de 10 mois dans toute la France, c'est ça ?
Oui, exactement.
Tomber en dépression, la soigner et la transformer en performance scénique épatante. Et nous retrouverons en ligne du Togo tout à l'heure, docteur Sonia Kané-Katoa. Elle est psychiatre au CHU Campus de Lomé et au CEPIAC, le centre de prise en charge intégrée des addictions de Kodjo Viakopé. Et puis en fin d'émission, la chronique de Bintou Cherseg, nutritionniste diététicienne au cabinet Nutrial de Dakar au Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Parler de la dépression, Constance, et même la jouer sur scène, donner à rire et aussi à pleurer de son propre parcours en santé mentale. Est-ce que c'est pour vous quelque chose qui est festif, douloureux ou thérapeutique ?
Eh bien, les trois en même temps.
J'allais dire les trois, mon capitaine.
Exactement. Parce que c'est la vérité. C'est une dépression, enfin un burn-out, une dépression et un diagnostic de bipolarité. Voilà, c'est mon parcours très brièvement résumé. Et ça dure longtemps. Moi, ça a duré un an et demi. Il paraît que c'est pas si longtemps que ça, mais déjà, ça m'a paru long. Et franchement, c'est tout ça. C'est pas un an et demi que de tunnel. C'est un an et demi avec des relations humaines, avec des rencontres, avec des fausses joies, avec des retombées, avec des impressions de s'en sortir. Donc, c'est la vie. C'est la vie dans une vie. Et il se passe énormément de choses et il y a beaucoup d'émotions qui se développent, en fait.
Avant le craquage, il y avait eu des signes, on va détailler justement à l'entrée dans la maladie ou du moins le diagnostic. Avant le craquage, il y avait eu des signes ?
Oh oui, moi ça fait un moment que je suis pas bien, mais j'ai toujours forcé parce que je m'étais dit que c'était pour les faibles en fait de vouloir s'arrêter. J'avais déjà fait un gros burn-out avant, je m'étais arrêtée de jouer pendant 2 mois, puis j'étais repartie et j'ai toujours été dans le déni, je voulais pas me soigner. Pour moi, ça existait pas vraiment, la dépression c'était quelque chose pour les gens qui se secouaient pas, vraiment. Le cliché, hein, mais voilà.
Oui, on va en parler de ces préjugés précisément. Dépression avec des hospitalisations, des phases critiques, des soins, des médicaments. Vous avez écrit, vous avez interprété ce parcours, alors qu'avant vous parliez d'humour, tout simplement. Vous ne pouviez pas faire autrement, après la maladie, d'avoir mis le nom sur cette maladie, que d'utiliser ce matériau pour le transformer ?
J'étais pas sûre du tout de remonter sur scène, parce que j'étais tellement mal et me remettre à vivre, c'était pas envisageable. Donc j'ai fait étape par étape. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a mis très en colère, c'est quand je suis sortie de tout ça, en fait, j'ai eu honte. et faire de l'hôpital psychiatrique des tentatives de suicide, c'est hyper stigmatisé. Donc je le cachais et en fait c'est une double peine parce qu'on s'est battu contre quelque chose et puis il y a pas de reconnaissance en fait. Et j'avais pris beaucoup de notes durant mes hospitalisations et j'ai tout relu, c'était vraiment difficile et puis petit à petit j'ai réussi à trouver de l'humour, à trouver de la légèreté par endroit et je me suis dit qu'il fallait absolument en parler parce que c'était dégueulasse d'avoir honte.
Et précisément ce spectacle il marche très bien, beaucoup de dates qui affichent complet. Est-ce que ça veut dire qu'on peut attirer, la réponse est dans la question, je m'excuse, est-ce qu'on peut attirer le public avec un sujet tabou?
Ben, à ce point-là, je le découvre. Parce que moi, j'ai écrit ce spectacle, j'avais plus rien à perdre. J'avais planté 2 producteurs, une tournée, j'avais plus un rond, j'ai vendu ma maison, je suis retournée chez mes parents, enfin, j'avais rien. Et je me suis dit, rien à perdre, j'écris ce truc, on voit si ça marche, ça marche pas. Je trouve une prod avec beaucoup de chance, je suis dans des bonnes conditions, je joue le spectacle et je suis extrêmement étonnée du rire qu'il installe. Je pensais qu'il y aurait du rire, de la peine, des trucs, mais que ce serait vraiment juste un spectacle de théâtre, un seul en scène. Et en fait, non, c'est resté un one-woman show avec beaucoup, beaucoup d'humour, mais pas que ça. Et je crois que monter sur scène en se sentant véritablement utile, j'en aurais besoin depuis le début de ma carrière et ça arrive maintenant et ça me donne une force incroyable.
C'est pas un spectacle humoristique, c'est un spectacle émotionnel.
Ah oui, c'est un spectacle, on m'a déjà dit à pleurir de rire.
C'est ça, exactement. Il y a des sanglots de rire, des fois on ne sait plus trop où on en est.
Bah, on a l'impression, excusez-moi je vous coupe, mais on m'a déjà dit aussi, on a l'impression d'être dans la tête de quelqu'un qui est bipolaire, parce qu'on passe par des telles phases de joie, de hauteur, de descente, etc., que psychologiquement, des fois c'est un peu fatigant, parce qu'on passe du rire aux larmes.
On a mal avec vous.
Oui, c'est ça.
On a mal avec vous. Est-ce que vous avez le sentiment d'être devenue, d'une certaine manière, une patiente experte?
Ça me fait peur, ça. Ouais, j'ai pas envie d'avoir cette étiquette. J'ai pas ce savoir. J'ai pas cette prétention. Il m'est arrivé quelque chose, je l'ai raconté. C'est un témoignage. Mais je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue. Et c'est dangereux de croire que moi je peux donner des conseils au-delà de juste d'un témoignage.
Expérience singulière, docteur Lucie Joly. Alors c'est vrai, beaucoup de préjugés, de stigmatisation autour de la dépression en général, qui est fréquente. D'après l'OMS, la dépression c'est au moins 5% des adultes. Est-ce que c'est encore plus vrai, ces préjugés, pour la dépression au féminin ?
Ben oui, c'est vrai que les femmes traversent des périodes quand même compliquées, de grands remaniements hormonaux, comme la période de la grossesse, de la ménopause, ou même la période avant les règles, qui peut être compliquée. Et très souvent, les symptômes dépressifs, ils sont mis sur le compte de cette période. Et on passe à travers des dépressions, parce que ces femmes font de vraies dépressions. En effet, la dépression touche 350 millions de personnes à travers le monde, donc c'est énorme. Et c'est l'une des principales causes de handicap. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que c'est bien au-delà de la tristesse et très souvent on a cette représentation générale et en fait elle a des visages très, très différents en fonction qu'on soit un homme ou d'une femme de la période qu'on traverse.
Et dans l'expression également, des facteurs, on le sait, qui sont liés au cycle, aux hormones, mais ça ne veut pas dire pour autant que parce qu'on est avant les règles, après la grossesse, que tout ça c'est normal et que ça va passer avec le temps. On entend un peu, allez ma petite, ça va passer, t'en fais pas, serre les dents, ça va passer.
Oui, c'est ça, mettez-vous un coup de pied aux fesses, ça va passer. Mais en fait, quand on est vraiment très déprimé, de dire ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. En fait, la dépression, c'est une vraie pathologie qu'il faut prendre en charge. Rappelons que dans le postpartum, le suicide est la première cause de mortalité maternelle
chez les femmes en France,
l'accouchement. Donc c'est un chiffre qui est terrible et qui montre bien qu'il faut qu'on prenne en charge ces dépressions.
Précisément vous, docteur Lucie Joly, votre pratique c'est la psychiatrie périnatale. Est-ce que beaucoup de ces nouvelles mamans qui arrivent chez vous disent « mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne pensais même pas » qu'on pouvait être triste avec un bébé.
Exactement. Très souvent, c'est un premier contact avec la psychiatrie. Et c'est vrai que déjà, c'est compliqué d'aller consulter parce qu'en France, on a une vision assez négative de la psychiatrie, alors que c'est une spécialité qui rajeunit et qui est en pleine révolution scientifique. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à venir consulter. Mais en plus, pendant la période de la maternité, il y a quelque chose qui fait que il y a une pression sociale où on est enceinte, entre guillemets, on se doit d'être heureuse, alors qu'en fait, c'est une période qui est très compliquée, de grande fragilité psychique.
Au début de votre spectacle, Constance, il y a le déni, hein, le vôtre, vous en avez parlé, il y a la minimisation du médecin aussi. Est-ce que pour vous, cette entrée dans la maladie, ça a en quelque sorte aggravé vos symptômes ?
Ça m'a mis en grand danger, vraiment, parce que je suis restée sur le fait que je ne faisais pas une dépression, c'était impossible. J'ai vu un ou deux médecins traitants qui m'ont dit que ça n'était pas une dépression, qu'il ne fallait pas commencer les antidépresseurs, que sinon je serais toute ma vie sous antidépresseurs et que je n'en sortirais pas. On m'a dit de faire du yoga, de la respiration. J'aurais pu mille fois me suicider, passer à l'acte. Et j'ai eu, je pense, une bonne étoile. Et moi, c'est une amie qui m'a sauvée, qui m'a dit la dépression, c'est une maladie. Mmh. On soigne une maladie avec des médicaments, pas que avec des médicaments, mais avec des médicaments.
C'est vrai qu'il y a la stigmatisation des patients, il y a aussi la stigmatisation des traitements. Quand on a quelqu'un dans l'entourage qui prend des antidépresseurs, il y a les adeptes du bio qui arrivent à grand renfort et qui vous disent vous êtes en train de vous droguer, ou vous droguez les enfants, ou vous droguez la mère. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à gérer, docteur Joly.
Extrêmement difficile. C'est vrai que la dépression, elle va altérer les relations sociales, familiales, amoureuses. Elle a un impact très large. Et donc, quand il y a des symptômes qui sont légers à modérés, eh ben on proposera des psychothérapies associées à des conseils, des règles hygiéno-diététiques. Mais quand les symptômes sont modérés à sévères et que ça altère vraiment le fonctionnement, eh ben à ce moment-là, on proposera d'adjoindre un traitement antidépresseur, sachant que un traitement antidépresseur, on va pas le prendre toute la vie. Et c'est ça, quand on va consulter un psychiatre, c'est pas qu'on est fou. Il y a des idées comme ça un peu reçues. Il faut qu'on change un peu notre logiciel de pensée. Le traitement antidépresseur, quand on est bien stabilisé, on va pouvoir essayer de le diminuer progressivement, voire de l'arrêter, et mettre en place des stratégies pour éviter de rechuter. Mais voilà, il faut qu'on change un petit peu notre vision des choses.
Alors, docteur Joly, justement, vous parliez de crise après la grossesse, le postpartum. Il y a aussi la préménopause. Il y a toutes ces variations. Et dans le livre, vous parlez précisément du trouble dysphorique prémenstruel. C'est un nom compliqué pour quelque chose que beaucoup de femmes connaissent en réalité.
Oui, alors c'est important de faire la distinction entre le trouble prémenstruel et le syndrome dysphorique prémenstruel. Le trouble prémenstruel, ça va toucher environ 60% des femmes avant les règles, avec des symptômes dépressifs, mais qui sont légers à modérés, qui vont pas altérer le fonctionnement. C'est physiologique. C'est lié à tous les remaniements hormonaux qui ont lieu pendant cette phase lutéale, donc avant l'ovulation. Le trouble dysphorique prémenstruel, il touche 5% des femmes. Et là, c'est vraiment un état qui est pathologique, avec des symptômes dépressifs qui sont sévères et dont on parle très peu, mais qui peuvent être très, très handicapants, puisque la femme ne va plus pouvoir aller travailler, elle ne va plus pouvoir s'occuper des enfants. Et donc, il faut vraiment qu'on le prendre en charge en consultant des spécialistes.
Alors, Constance, dans votre spectacle, il y a vos pensées intérieures, y compris avec une petite voix coquine qui vous dit des choses pas toujours correctes, mais en tout cas, elle est toujours avec vous. Vous évoquiez directement le passage à l'acte suicidaire, frontalement. C'est un moment extrêmement difficile, j'imagine, pour vous, pour le public aussi. Est-ce qu'il y a des spectatrices qui viennent vous voir pour partager, échanger après sur leur propre parcours, ou est-ce que vous avez une distance pour vous protéger de ça ?
Je fais attention parce que quand on touche à l'intime, aux fêlures, les gens ont besoin de se livrer. Et encore une fois, c'est pas mon métier et puis je suis très empathique, donc ça m'est arrivé une fois ou deux d'avoir des témoignages vraiment bouleversants et moi je le porte après plusieurs jours et je dois rester vigilante parce que j'ai été stabilisée, mais je reste particulièrement sensible. Donc j'attends un peu plus longtemps pour sortir, parce que c'est compliqué quand quelqu'un vient vous parler. Des fois, les gens restent une heure, et je dis toujours, moi, je peux pas faire une consultation
qu'est-ce
après.
Qu'est-ce qu'on en attend? Surtout que si vous avez l'image de la rigolote, c'est pas évident
Non, voilà. Et puis il y a des gens, ils viennent me voir pour savoir s'ils ont le bon traitement, pour savoir s'ils doivent se faire hospitaliser, etc. Sur quoi je dis, mais vous savez, je fais un spectacle d'humour, en fait, je suis comédienne, et c'est dangereux de me demander, je peux pas vous dire.
Connaître ses limites, c'est important. Docteur Lucie Joly, on a parlé des facteurs physiologiques, tout ce qui est lié au cycle, etc. Il y a vraiment le gros de votre livre, c'est ce qu'on pourrait appeler le contexte, la pression, l'environnement. C'est quoi cet ennemi impalpable pour la santé mentale des femmes ? On ne va pas repartir dans les discussions, même si elles sont passionnantes, j'ai rien contre le patriarcat, etc. Mais est-ce que c'est un facteur aussi de vulnérabilité essentielle ?
Le le piège de la biologie, c'est son pouvoir explicatif. Donc, c'est très important de connaître toute la mécanique hormonale, physiologique. Mais voilà, c'est aussi une combinaison de facteurs socioculturels qu'il faut absolument prendre en compte.
Il y a un vieux terme qu'on utilisait avant, ça s'appelait la condition féminine.
Oui, c'est ça.
Ça nous ramène un peu à ça.
Mais je crois qu'il faut qu'on évolue et parce que la prévalence de la dépression, voilà, la dépression touche deux fois plus les femmes que les hommes. Donc il faut l'entendre et essayer de qu'on puisse améliorer les choses. Et c'est vrai que les femmes sont les principales victimes de violences, conjugales. Et donc il faut l'entendre, il faut qu'on change les choses. Il faut aussi changer nos conditions de travail. On le met dans le livre, mais 8 médecins sur 10 ont été victimes de harcèlement pendant leur pratique. Donc voilà, c'est aussi des chiffres qui sont importants. L'organisation familiale, le salaire moyen est inférieur de 24% pour les femmes, avec 71%
de tâches
ménagères.
Quand vous dites ça, est-ce qu'il y a pas des gens qui vous disent « Mais de quoi ils se mêlent ces psys à nous parler du salaire des femmes ?» C'est quoi le rapport avec la dépression ?
Eh bien, ça joue parce que tout ça se cumule en fait, ça se cumule et donc la dépression chez les femmes est beaucoup plus importante, donc tout ça joue ensemble et se potentialise.
Alors, des années de parcours de soins, Constance, votre vécu de patiente, et vous avez expérimenté non seulement pas mal de structures de santé, pas mal de pratiques. D'ailleurs, il y a des scènes assez cocasses où vous décrivez l'art-thérapie, entre autres, ou alors des choses absolument innommables dans le cadre de cette prise en charge. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs soignants qui vous ont aidé à reprendre pied, qui ont en quelque sorte éclairé, mis un peu de lumière dans un tunnel un peu compliqué et sinueux ?
Il y a des gens qui m'ont sauvé, littéralement. Déjà les pompiers qui arrivent à temps, qui savent gérer le stress des gens autour. Et puis qu'on se sent froid, qui vous emmène au bon endroit. Et puis après, c'est tout un parcours. Au début, je disais oui, mais j'ai mis du temps avant de trouver le bon psychiatre, le bon psy, la bonne clinique. Mais je crois que c'est un chemin, en fait. J'aurais pas été prête au départ à trouver les bons soignants. Donc, c'est assez terrible de dire qu'il faut passer par tout ça. Et que oui, c'est clairement dangereux. J'aurais pu ne pas être là. Mais à un moment donné, voilà, vous tombez sur quelqu'un. J'aime bien dire que c'est un petit peu comme une histoire d'amour, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de changer si ça ne va pas et de se rendre compte qu'on est malheureux jusqu'à ce qu'on se sente bien avec quelqu'un et que les choses soient évidentes. Un soignant avec qui ça se passe bien, on n'a pas peur de lui dire les choses, on est vulnérable et on accepte d'être aidé. Voilà.
Et ce n'est pas parce qu'il y a des années derrière que ça ne marchera pas. Il faut garder cette confiance.
Mais surtout pas, et ouais. Je pense même que moi j'ai été diagnostiquée à 35 ans, je n'aurais pas été capable de me dire que j'avais un traitement à prendre à vie avant. Je me serais dit que c'était impossible. En fait, le problème, c'est que la psychiatrie, l'hospitalisation, les médicaments, moi, j'avais l'impression que c'était de la faiblesse, que je me mettais à genoux sur les médicaments et je me mettais à genoux sur l'hospitalisation en me disant c'est terminé, là je suis au bout du bout, je peux plus m'en relever. Alors qu'en fait c'est une démarche pour se soigner, et il y a un psychiatre qui m'a dit cette phrase absolument incroyable une fois. Il m'a dit l'hospitalisation c'est pas un échec, c'est un refuge, un endroit où on accepte d'être aidé, et c'est essentiel dans une maladie.
Se mettre à l'abri. Constance, docteur Joly, on va se retrouver avec à suivre témoignage d'auditrice, le regard d'une consoeur psychiatre à Lomé, juste après Naomi Sharon, Hills dans Priorité Santé sur RFI. You got me feeling my ground so deep. Rooted by a sound it's so steep. You try to hold grip on me. We're tumbling down on the hills of lost and found. I got your mind on my face. The dirt flows with every sunrise. You're speaking to my subconscious and my pain. Like holy water touching your sin. I push the night away. Some days I get in my feelings, yeah, I'm dealing with it. On my bare knees, got you feeding, your ego bleeding. I got you loving, love that wasn't for us. I might cling to you even harder.
is the flowers you gave to me when you left me for your knees. I used to crawl up on your lap so I could feel the love I've never had. I trust my God and my faith was drowned. Some days I think in my feelings, yeah, I'm dealing with it. On my bare knees, got you feeding, your ego bleeding. I got you loving love that wasn't for us. I might clinch you even harder when you push me to be free. So love.
Priorité santé sur RFI, la dépression au féminin, démystifier, comprendre, guérir, un livre publié aux éditions du Rocher, coécrit par notre invité du jour, docteur Lucie Joly, qui exerce en psychiatrie périnatale au service de psychiatrie de l'hôpital Saint-Antoine et de l'hôpital Trousseau à Paris. Puis toujours avec nous, Constance, humoriste, ex-patiente. Parmi les dates 5 au 20 juin, Théâtre de l'Atelier à Paris, ce diagnostic, alors on a parlé de dépression, vous précisément, c'est une maladie bipolaire. Il a été posé, ce diagnostic, il y a combien de temps ?
Il y a 2 ans.
Et avant ça, vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous mettiez quoi comme mot là-dessus ? Je suis dynamique, je suis émotionnelle, je suis sensible, je suis quoi ? Je suis énervée.
Ouais, je suis à fleur de peau. Ouais. Tant pis, j'ai des sautes d'humeur. Ça fait partie du fait que je sois une artiste. Et il faut vivre avec ça. En fait, avant d'être stabilisée, moi, j'ai vécu quand même pendant des années en me disant que la vie, c'était ça. C'était une espèce de bataille contre la mort permanente et à des moments à se sentir surpuissante, à faire de la merde, vraiment parce qu'il n'y a aucune limite, et puis à vraiment être au bord de la mort des fois d'une manière très dangereuse, quoi. Ouais, ouais.
Est-ce que vous parleriez dans votre cas d'une errance diagnostique ou, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était une maturation avant la prise de conscience ?
C'est un mélange des deux.
Docteur Lucie Joly, cette errance diagnostique, est-ce que c'est quelque chose de fréquent ? On reste sur notre sujet, au féminin.
Oui, parce que je le disais tout à l'heure, hein, les symptômes, ils sont très souvent banalisés, et encore plus chez les femmes. Donc très souvent, il y a un retard diagnostique assez important.
Et justement, dans la difficulté de cerner la problématique, finalement, est-ce qu'une fois que les personnes sont éclairées, c'est la lumière qui arrive et on va dire, voilà, je vais vous aider de cette manière, ou ça prend encore du temps parce que finalement, il y a des gens qui disent, ça va passer, y compris dans le corps médical ?
Oui, bien sûr, et ça prend du temps. Déjà, il faut s'adapter à la personne et proposer des prises en charge personnalisées. Et puis, il y a aussi un manque de formation des professionnels de santé qui est important. Et c'est vrai que, par exemple, dans la période périnatale, les sages-femmes sont très peu formées en psychiatrie, alors qu'elles sont les premiers remparts. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Les médecins généralistes aussi, dans la prescription en psychopathologie périnatale, dans les dépressions féminines, il y a quelque chose à faire.
Des
là-dessus.
Programmes, y compris dans le cadre de formation continue, c'est pas parce qu'on est sorti des écoles que tout est fini, loin de là. Parcours témoignage, on part pour le Cameroun.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
Et c'est Cyrielle qui a appelé Priorité Santé. Elle a laissé ce message sur le répondeur au 33 7 71 18 46 41. On l'écoute, sa voix a été modifiée pour préserver son anonymat.
Ma dépression vient des difficultés académiques en fait. Lorsqu'on vient d'obtenir son bac, on change, on sort du village pour arriver en ville. Le contexte est tout différent. Le contexte à l'université, ce n'est plus la même chose. Et du coup, je me suis retrouvée dans une situation où j'étais en train de perdre le contrôle, en fait. Donc, j'étais en train d'échouer pour toute l'année académique. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me posais autant de questions. Et avec les difficultés économiques aussi, les parents sont loin. On est dans une famille d'accueil et tout, c'était pas évident. J'avais des idées sombres, je dois arrêter cette école, ça fatigue mes parents et tout. Donc j'étais dans cette logique-là. Je ne parlais à personne à la maison, genre pendant une semaine, et à ce moment-là, je ne me suis pas rendu compte que j'étais dépressive. C'est un jour, en communiquant avec un ami qui est aujourd'hui médecin, c'est là où il me dit: Oh, tu sors de loin, tu as fait une dépression. Je me dis: Waouh. Et pour m'en sortir, je me suis juste reconcentrée. Un jour, j'ai appelé maman, j'ai dit que ça ne va pas, et elle m'a un peu encouragée en fait. Et c'est là où, de là, je suis sortie de cette période troublante là. Je remercie tous ceux qui ont toujours été là pour moi, et surtout ce collègue médecin qui m'a écoutée sans toutefois me juger, parce que j'avais beaucoup plus peur de ce côté-là, d'être jugée.
Témoignage de Cyrielle, la peur du jugement, parcours d'étudiante diplômée, pression financière, isolement et l'importance de trouver la bonne personne, on le redit, la personne à qui parler, docteur Lucie Joly. C'est vrai que quand on va mal, c'est pas évident de le dire non plus, hein.
C'est ça, c'est très compliqué. Et puis parfois, on s'en rend pas compte, en fait. Quand c'est un premier épisode dépressif, eh bien, on peut ne pas se rendre compte qu'on fait une dépression. Et rappelons-le, hein, la dépression, elle se diagnostique sur des symptômes cliniques, hein. Il n'y a pas de prise de sang, il n'y a pas d'examen d'imagerie pour dire, ah bah, c'est une dépression. Et donc, on se repose sur le manuel, le DSM, le manuel statistique et diagnostique des pathologies mentales. Et donc voilà, c'est vrai qu'en premier épisode, c'est compliqué parfois de faire la part des choses et d'aller consulter. Et ce qui est important, et on le disait tout à l'heure, c'est d'avoir un psychiatre avec qui le contact est bon. Et c'est ça le principal, de pouvoir se libérer, de pouvoir déposer des choses en entretien sans aucune limite.
Santé mentale, grande cause nationale 2025, avait annoncé Michel Barnier alors qu'il était encore Premier ministre, une promesse qui se heurte au vécu des soignants et des patients. Parce que Constance, vous avez vécu la crise de la psychiatrie en France, on va dire de l'intérieur. Ça se ressent dans votre spectacle. Des fois, c'était bien. Des fois, c'était la catastrophe. Vous avez les moyens d'être plutôt bien soigné. Votre famille vous a accompagné, hein, vous le dites. Mais il y a eu des moments pour le moins problématiques lors de vos hospitalisations.
Bah clairement, à un moment donné, on n'a plus d'argent parce qu'on a tout investi dans les cliniques privées. Et là, on se retrouve dans l'hôpital public, la section psychiatrie en province, pas dans une grande ville. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tout le monde est mélangé. Les murs sont défoncés. Ça crie, ça pleure tout le temps. Il y a le voisin de chambre qui étale sa merde sur la porte.
Vous êtes là, soi-disant, pour vous mettre à l'abri. Là, on peut dire
c'est
que l'abri n'y est pas.
C'est-à-dire que vous
complètement
vous retrouvez aux urgences parce que vous avez fait une TS et vous êtes en détresse absolue.
TS, c'est tentative de suicide.
Oui, pardon. Et c'est mon jargon. C'est devenu
ça,
tellement
c'est
habituel. C'est horrible, mais c'est vrai. Et en fait, il y a une infirmière psychiatrique aux urgences qui arrive et qui, elle, est très réconfortante et qui dit voilà, on va vous hospitaliser, on va venir vous chercher, nanana. Et là, il y a une ambulance qui vous emmène dans un hôpital public. Et c'est horrible. Vous attendez sur un brancard un jour et demi, vous n'avez pas mangé, vous êtes dans vos fringues, vous voyez des gens passer qui hurlent. Enfin, c'est terrible. Puis après, avec le Covid, on vous isole dans une petite chambre. Moi, je suis migraineuse. C'est atroce d'avoir des crises de migraine. On n'a jamais voulu me donner un médicament. J'avais pas mon portable, j'avais pas un livre, j'avais juste la douleur et le crépi du plafond. Et ben c'est épouvantable en fait d'être puni comme ça. Et moi j'ai une maman qui est dépressive aussi depuis des années. Et avant de trouver un psychiatre, ça a pris des années. Et au bout d'un moment, il y en a un qui se libère et ça matche pas avec lui. Donc ça s'arrête. Donc il y en a pas d'autre. Donc on arrête et on est soigné par un médecin traitant qui n'est même pas persuadé de la dépression, qui donne des médicaments sans savoir exactement ce qu'il fait. Et c'est très cruel ce qui se passe. Hein.
Docteur Joly, santé mentale dans le paysage sanitaire français, on en parle beaucoup, y compris dans les médias. Mais côté moyen, hors promesse aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce sujet?
Ah, la psychiatrie, c'est le parent pauvre de la médecine. Hein. Et ça, c'est vrai que la période Covid l'a montré, l'a exacerbé.
Besoin de plus en plus de moyens.
Il nous faut des moyens, absolument. Parce que quand on fait des gardes aux urgences, par exemple, eh bien, on a du mal à hospitaliser les patients. On a pas de lit d'aval. Et comment on fait? Ben c'est très compliqué. Donc, il faut vraiment nous aider.
Il faut aider. Autre regard, autre témoignage. On part maintenant pour le Togo et pour le Mali.
RFI à Lomé, 91.5 FM.
On vous retrouve, docteur Sonia Kaneka-Toi. Bonjour.
Bonjour. Alors, vous êtes... Bonjour. Vous êtes docteur Joliet Constance.
Bonjour.
Psychiatre au CHU Campus de Lomé, au CEPIAC aussi. C'est le centre de prise en charge intégrée des addictions de Kodjo Viakopé. Docteur Kaneka-Toi, est-ce qu'il y a des chiffres, des études qui pourraient nous permettre d'un petit peu comprendre comment ça se passe au sujet de la prise en charge de la dépression dans votre pays, et en particulier au Togo, la dépression au féminin ?
Merci vraiment pour cette invitation. Des chiffres, on n'a pas tant que ça. On a beaucoup plus des chiffres hospitaliers. Mais en 2021, l'enquête STEP, une enquête en population générale, nous a permis quand même de toucher du doigt quelques éléments par rapport à la dépression. Et c'est une enquête qui a quand même touché... Qui a touché 59,1% des femmes enquêtées, donc sur 3880 personnes enquêtées, 59% étaient des femmes.
Donc ça veut dire là aussi on a une surreprésentation féminine, y compris dans votre contexte. Est-ce que ça veut dire, docteur, qu'un certain nombre des femmes qui arrivent dans votre service, elles sont allées voir d'autres médecins, d'autres recours médicaux avant d'arriver chez vous ? Je pense en particulier au TRADI.
Exactement, exactement. Généralement, elles passent toujours par d'autres thérapies. Je dis thérapie avec entre griffes. Mm. Elles passent au niveau des tradithérapeutes, au niveau des pasteurs, des religieux, avant d'arriver à l'hôpital. Ce qui fait qu'on les retrouve très souvent déjà avec des complications, en fait. Mm. On n'en trouve pas facilement des dépressions modérées ou légères ou modérées, on les retrouve beaucoup plus à l'étape de dépression modérée ou sévère, avec même des caractéristiques psychotiques, c'est-à-dire des hallucinations déjà, des idées délirantes, des idées fausses auxquelles elles adhèrent très fortement, avec déjà des agitations et d'autres symptômes comme ça. Donc c'est quand c'est bruyant, je vais dire ça comme ça, quand c'est bruyant, qu'on les amène à l'hôpital.
D'accord, quand les symptômes sont déjà exacerbés. Est-ce qu'on parle dans le livre « La dépression au féminin », on a l'autrice avec nous, docteur Joly, de tout ce qui est sociétal, culturel, environnemental et qui accentue la dépression au féminin. Est-ce que vous le constatez aussi chez vous, on va dire même pression ou violence sur le genre qui favorise ou aggrave cette dépression chez les femmes togolaises ?
Tout à fait. Nous avons les mêmes réalités. Je vais dire ça comme ça. J'ai noté quand elles intervenaient, le mot pression sociale, le mot reconnaissance socio-culturelle. Et nous avons vraiment ça aussi au Togo. Et je vais dire généralement comme ça en Afrique subsaharienne. On retrouve vraiment ces mêmes réalités, et ce qui fait que c'est assez compliqué. La reconnaissance même de la maladie n'est pas faite à temps. Comme Constance l'a dit, cette reconnaissance-là qui est absente et qui crée un grand impact négatif.
On va avoir une illustration avec une auditrice, un autre témoignage si vous le voulez bien, docteur. Vous restez bien sûr avec nous en ligne de Lomé. C'est Amina qu'on retrouve maintenant de Bamako du Mali. Amina, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Alors, Amina, on va le dire carrément, un parcours très compliqué, très difficile. Aujourd'hui, vous avez 38 ans. Vous sentez comment aujourd'hui ? Est-ce que vous vous sentez encore en situation de fragilité ?
Oui, absolument. Oui. Je me sens vraiment fragile.
Oui, et c'est lié à votre histoire, notamment tout ce qui vous lie à votre ex-mari. Vous êtes séparée depuis combien de temps, Amina ?
Nous sommes séparés maintenant, ça fait 2 ans.
Ça fait 2 ans. Ça se passait comment entre vous ?
Ça s'est passé, on s'est rencontrés en janvier 2022.
Oui.
Ça trouvait qu'il venait de perdre sa femme.
Oui.
En donnant la vie, sa femme a perdu la vie. Mm. Elle a laissé un nouveau-né derrière elle. Mm. Bah, le monsieur, il cherchait une femme pour consoler son bébé et lui. Mm.
Donc, quand vous avez épousé cet homme, entre guillemets, vous avez accueilli le bébé et vous l'avez pris pour votre propre enfant, c'est ça ?
Pour mon propre enfant. Et je l'aime toujours. Le manque de bébé là, ça me donne même l'insomnie et tout ça, juste sur moi, sur ma santé, sur mon esprit.
C'est la séparation avec l'enfant qui vous pose aujourd'hui problème, peut-être même davantage, bien davantage que celle avec l'homme, c'est ça?
Oui, c'est la séparation de l'enfant là, qui me fait souffrir et puis j'ai un problème de santé également. Mmh. Je pense à tout ça et surtout mon enfant, c'est un bébé, aujourd'hui il a 4 ans.
Mmh. Quand vous parlez de ce bébé, vous dites c'est mon bébé?
Oui, c'est mon bébé à moi parce que quand je l'ai eu, il était tout petit, il avait à peine, il n'avait même pas un an d'abord.
Mmh. Et est-ce que cette perte, cette séparation, vous avez pu confier toute cette douleur à un médecin? Est-ce que vous avez pu le faire?
Non, j'avais même pris, on m'avait pris un rendez-vous avec un psychologue.
Mmh. Vous avez pris rendez-vous, Amina, avec un psychologue, pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment dans votre vie où ça allait très mal?
Parce que la mentalité, le manque de l'enfant et puis la façon dont le monsieur il me traite.
Ouais.
Il m'a séparé de l'enfant parce qu'il dit que j'ai une tenue. Alors qu'avant qu'on se marie, je l'ai tout expliqué que je n'ai pas de stomie, mais je ne savais pas que c'était une stomie de l'été.
Une stomie, c'est-à-dire que vous avez un problème digestif tellement grave qu'il a fallu vous faire une opération avec une dérivation. Donc c'est vrai qu'au quotidien, c'est quelque chose de très lourd à vivre. Vous avez ce problème de santé qui est donc un problème de santé assez grave. Est-ce que les médecins, les psychiatres vous ont donné des médicaments pour aller mieux? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Oui, ils m'ont dit... Ils m'ont dit de veiller sur moi et de veiller sur mon bébé, mais que la santé avant tout. Je dis, ma santé me porte peu, mais c'est la vie de l'enfant là qui me préoccupe. Mmh. Et depuis 2 ans, je suis séparée de l'enfant là, je ne trouve pas les sommeils. À chaque fois, je pense à lui, je ne sais pas ce qu'il vit, il mange, qu'est-ce qu'il fait.
Donc ça veut dire que vous êtes toujours inquiète pour ce bébé. Aujourd'hui, Amina, à part ce problème qui est énorme pour vous, qu'est-ce que vous faites, vous, pour vous soulager? Est-ce que quelqu'un peut vous aider? Qu'est-ce que vous faites?
Oui, quelqu'un peut m'aider avec les conseils. J'ai besoin de conseils, de tranquillité pour mieux penser à moi et penser que l'enfant qu'il va mieux.
Oui, cette inquiétude. Essayer de retisser des liens avec la famille, j'imagine, c'est très très compliqué pour avoir des nouvelles de l'enfant. En tout cas, on entend, docteur Sonia Kanekatwa, cette douleur d'Amina, sa difficulté aussi, parce qu'elle est complètement prisonnière de cette angoisse par rapport au bébé et que elle est en train de dégringoler. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Déjà, merci à Amina d'avoir pris sur elle, comme on le dit localement, pour pouvoir témoigner, pour pouvoir partager avec nous cette partie de sa vie. Et je vais vraiment l'encourager de pouvoir continuer à se battre en recherchant les bons conseils, comme elle a dit, en voyant mes collègues du Mali, les médecins. C'est important qu'elle puisse s'orienter vers eux. Eux, ils vont mieux comprendre tout ce qui se passe et ils vont beaucoup l'aider. Il y a le docteur Ousmane Dain qui est là, le nouveau maître de conférence agrégé, Papa Koulibaly aussi, qui est là au Mali. Et vraiment, ce sont des psychiatres qui pourront vraiment l'aider à pouvoir trouver ce qu'elle cherche. Parce que je sais qu'ils vont l'aider à pouvoir... remonter cette pente-là, pouvoir vraiment se soigner, retrouver cette vigueur, cette envie de vivre et puis rétablir son sommeil.
C'est vrai que si sa santé physique n'est pas à la hauteur, ça ne va pas l'aider à remonter. Docteur Lucie Joly, on perçoit cette violence subie après le divorce, la perte d'un être cher, cet attachement. C'est vrai que parfois, on a tellement mal, on voudrait trouver la solution pour extraire la douleur de sa chair. Et là, c'est vraiment, on se sent complètement prisonnier de cette douleur, de cette souffrance qui empêche de dormir, qui empêche de vivre.
C'est ça. Je voudrais remercier Amina pour ce témoignage qui est poignant et... qui relate vraiment la profondeur de la souffrance qu'elle décrit. C'est une situation qui est assez particulière parce qu'elle vit un deuil qui est assez complexe parce que c'est une perte d'enfant qui n'est pas socialement reconnue.
Comme le sien.
C'est compliqué. Et donc moi, je l'encourage à consulter un psychologue ou un psychiatre pour mieux gérer ses émotions, travailler ce lien perdu avec cet enfant et puis renforcer sa confiance en elle. Et c'est vrai que ce parcours traumatique associé à cette pathologie, c'est compliqué et donc il faut vraiment qu'elle soit soutenue.
Merci beaucoup Amina, beaucoup de courage. Docteur Kanekatwa, assez brièvement parce que le temps passe vite, un message justement, vous parliez tout à l'heure des prises en charge tardives avec leur lot de complications. Quelles recommandations à celles qui nous écoutent, qui sentent qu'elles vont mal, vous leur conseillez de faire quoi?
N'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a des professionnels autour. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux, mais les psychologues sont là, les médecins, psychiatres. Nous avons un corps de métier appelé les masters en santé mentale, un peu l'équivalent des IPA, des infirmiers en pratique avancée chez vous en France, qui sont là, et d'autres qui sont aussi formés pour pouvoir aider. Et c'est important de venir quand ça va pas, quand on sent qu'il y a quelque chose qui, on se sent trop triste pendant un peu trop longtemps, on n'a plus l'envie de faire quoi que ce soit, on se sent incompris, on n'arrive pas à dormir, de demander le soin à l'hôpital.
Il faut en parler. Merci docteur. Très très bonne journée à Lomé. Le mot de la fin, Constance, il y a des psychiatres qui sont venus en parler, on disait tout à l'heure des spectatrices ou des spectateurs, des psychiatres sont venus vous voir?
Oui, j'ai eu psychiatres, psychologues, des malades, des soignants, des accompagnants, des aidants, comme on dit, et ça parle à plein de gens, donc voilà, et puis je voudrais dire vraiment que c'est un spectacle qui donne de l'espoir. Je voulais pas que ce soit plombant, je voulais que ça donne beaucoup d'espoir, parce qu'il y en a.
Il y en a, heureusement, on l'a entendu en tout cas, déjà en parler, échanger, arrêter de garder ça pour soi. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à notre invitation. Le livre donc qui est publié aux éditions du Rocher, Docteur Jolie, Dépression féminin, Constance, votre spectacle Inconstance à la Comédie de Paris, c'est complet. Ensuite, il y a des dizaines de dates, un vrai tour de France. Grand merci à toutes les deux, on va parler nutrition. Et avant cela, Why Should I Smile, Mélissa Lavaux sur RFI.
Why should I smile? Why should I smile for you? Voice once sublime, now whistle sour tunes. I had no time for cheap words, table wine. I have no time for thin saris from a swine. Why should I smile? Why should I smile for you? Tongue once divine, tasting foul since June. I have no space for double faces on my dime. I have no grace for former lovers in my crimes. Another day without you, I'm better off without you. Another day without you, should I smile? Why should I smile for you? Action so vile, speak clear and loud of you. I pay no mind to your begging and your pleas. I pay no mind even though you're on your knees. Another day without you,
bien se porter, c'est tout de suite dans Priorité Santé avec vous. Bintou Chersek, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes nutritionniste diététicienne à Dakar et aujourd'hui on va parler du lien entre l'alimentation et la fatigue. Est-ce qu'on peut expliquer la nature justement de ce lien entre les deux?
Alors, j'aimerais préciser d'abord qu'on parle de fatigue chronique ou récurrente, qui n'est pas le résultat d'une maladie diagnostiquée, et non pas de la fatigue passagère qui nécessite juste du repos. Alors, pour répondre à votre question, la qualité de notre alimentation peut contribuer ou même être la cause d'une fatigue chronique, que ce soit une fatigue physique ou même une fatigue mentale.
Par quel mécanisme, comment la qualité de l'alimentation peut contribuer à la survenue de cette fatigue ?
Alors, il existe au moins deux mécanismes. La fatigue peut survenir par le biais d'une ou de plusieurs carences nutritionnelles, c'est-à-dire que lorsqu'un individu a une alimentation qui est chroniquement pauvre en micronutriments, en vitamines, sels minéraux, ça va entraîner un déficit de ces nutriments dans l'organisme qui ne peut plus fonctionner normalement, ce qui peut entraîner de la fatigue.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de carences en nutriments qui entraînent ce fameux coup de pompe ?
Alors, l'exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, qui est le plus évident, c'est celui de la carence en fer, qui est très répandue parmi les femmes en âge de se reproduire. Mais il y a aussi des carences en vitamine A, en calcium et en zinc qui peuvent induire une fatigue. Tout à l'heure, j'ai parlé de la fatigue mentale, qui peut être du stress ou même de la dépression. Eh bien, ça aussi peut être entraîné par des carences en magnésium et ou en une ou plusieurs des vitamines B. Il y en a 8. Et il y a une autre carence qui est très fréquente et qui entraîne une grosse fatigue chronique. On n'y pense pas souvent, mais c'est la carence en eau, la déshydratation. Les personnes qui ne boivent pas assez et à intervalles réguliers sont souvent très fatiguées.
Alors comment l'identifier ? Comment peut-on savoir, Bintou Chersek, qu'on a une carence nutritionnelle qui pourrait donc expliquer cette fatigue et surtout comment corriger cela ?
Pour ça, il faut consulter un médecin. Il ne faut surtout pas se lancer dans des autodiagnostics et automédications. Et ce médecin, selon les symptômes et son expérience, va prescrire un bilan sanguin. Une fois qu'on a identifié là ou les carences, le médecin peut à ce moment-là prescrire des compléments alimentaires pour les corriger. Mais il ou elle devrait aussi référer le patient à une diététicienne qui va l'aider à mieux manger, améliorer l'alimentation et combler la carence. Pour la carence en eau, ça c'est très facile de savoir si on l'a ou pas. Il suffit d'observer la couleur des urines tout au long de la journée. Si elles sont jaunes ou même jaunâtres, c'est qu'on ne boit pas suffisamment.
Et vous avez parlé de deux mécanismes, Bintou Chersek, par lesquels la qualité de l'alimentation entraîne une fatigue chronique. On vient de voir cette carence nutritionnelle. Quel est le second mécanisme ?
Alors, au lieu de la carence, l'excès de certains nutriments entraîne de la fatigue. Déjà, d'abord, l'excès de sucre ajouté, notamment sous forme de soda et d'autres boissons sucrées, pousse l'organisme à déployer tellement d'efforts et d'énergie pour métaboliser ou utiliser le sucre que ça provoque de la fatigue, de la somnolence. Deuxièmement, c'est pareil pour l'excès de gras, la friture, les sauces huileuses, le riz gras, comme notre fameux tchibouyan ici au Sénégal, qui demande un temps de digestion plus long et beaucoup plus difficile. Et donc, dans ces deux cas, il faut réduire sensiblement la consommation de sucre ajouté ou même l'éliminer parce qu'il ne nous sert à rien. Et bien sûr, réduire le gras en réduisant les fritures et en s'assurant que l'huile n'est jamais visible dans les mets que l'on mange.
Merci beaucoup, Bintou Chersek. Tous ces conseils, on les retrouve à toute heure sur le podcast de l'émission Priorité Santé, par exemple sur l'application RFI Pure Radio. Priorité Santé, c'est fini. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare et réalise votre émission. Au fil de la scène, Louise Caledec, Talim Pau, Didier Bleu, Hugo Vallière. Demain, on se retrouve à Lyon pour l'inauguration de l'Académie de l'OMS, un centre de formation pour les soignants du monde entier. Des milliers de cours en ligne, mais aussi des mises en situation pour être plus efficaces en période de crise. On se donne rendez-vous à 9h10, temps universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.